Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence va soigner ses collèges et notamment celui du Mont d'Or à Manosque. Reportage dans un instant. L'entreprise Terdoc produit des thés réputés. Elle a bénéficié d'un coup de pouce du plan de relance. Olivier Remeau est philosophe et s'intéresse au réchauffement climatique côté glace et iceberg. Il était présent au Congrès mondial de la nature de Marseille. Interview dans ce magazine. Au pied de la montagne de Lure, le village de Montlo ne veut pas oublier son passé. Le loto du patrimoine de la mission Berne va aider à la restauration des ruines du vieux Montlo. 10e édition pour les escapades du théâtre Durance de Château-Arnoux, le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. Un appel à acteurs amateurs est lancé pour jouer une création à Valensole. Vous pouvez participer à Si Valensole m'était compté, le reportage d'Odile Frison à la fin de ce magazine. Le CD04 soigne ses collèges.
La présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a choisi le Collège du Mont d'Or à Manosque pour présenter un programme vers les 16 établissements secondaires du 04. Accueilli par la principale Françoise Decoq et son équipe, et avec plusieurs élus et professionnels, elle a parcouru les couloirs et espaces et a pu échanger avec les agents, enseignants et élèves. Plus ancien collège manosquin, le Mont d'Or est né à la fin des années 60 et a vécu quelques évolutions et agrandissements importants, dont un gymnase, un bâtiment administratif, une cantine et des locaux adaptés au fil du temps. Aujourd'hui vieillissant et en souffrance, c'est dans ces murs que le département a annoncé son plan 100% collège. Sur une enveloppe de 38,5 millions en 5 ans, 21 seront consacrés à de grands projets comme celui de Manosque pour 12 millions d'euros et 17,5 millions d'euros seront alloués à la modernisation des établissements. Un choix fort vers la jeunesse et l'éducation auquel il faut ajouter un plan de dotation de tablettes numériques pour chaque élève dès la 6e, soit 5 600 000 euros d'investissement sur 3 ans. Je vous propose d'écouter la présidente Eliane Bareille, puis Camille Galtier, maire de Manosque et également le directeur académique de l'éducation nationale, Frédéric Gilardeau, lors d'une journée de rentrée scolaire qui fera date pour les collèges basalpins. Eliane Bareille, avant de parler des collèges, le collège c'est un élément important de notre société, l'éducation bien sûr, mais aussi la jeunesse, le social, la culture, le sport.
Oui, bien entendu, puis c'est surtout une compétence très importante au niveau du département qui occupe une grosse partie du budget du département. Vous le savez, bon, on a une grosse ambition pour les collèges, je viens de la présenter, mais ça s'arrête pas là parce que nous avons aussi de l'ambition pour développer une stratégie sportive départementale, une stratégie aussi en faveur de la jeunesse. Donc c'est vraiment notre volonté. Pour l'instant, nous avons travaillé sur les collèges, on ne peut pas mener de front tous les chantiers. Travaillons aussi, nous allons travailler sur une stratégie en faveur des sportifs et en faveur de la jeunesse.
Avec ici à Manosque un accent important qui est mis sur le collège du Mont d'Or, il était temps.
Quand je regarde les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il se passait beaucoup de choses à Manosque sur le collège du Mont d'Or, pas forcément des choses sympathiques puisque effectivement il y avait un gros mécontentement. Et puis je pense que c'était vraiment le collège qui méritait le plus notre attention. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de commencer notre action en faveur des collèges sur ce collège du Mont d'Or ici à Manosque.
Avec des investissements qui sont lourds pour le département.
Des investissements très lourds parce que pour le Mont d'Or c'est 12 millions d'euros, mais globalement pour la totalité des collèges c'est quand même 45 millions d'euros que nous prévoyons sur la mandature. 45 millions d'euros si vous le ramenez au budget départemental, c'est quand même une somme extrêmement importante. C'est aussi la preuve que nous portons beaucoup d'attachement aux collégiens, au collège, bien entendu, et c'est la vie d'un département par le biais de sa jeunesse.
Dans votre plan 100% collège, il y a aussi l'accès au numérique qui va être favorisé pour toutes les classes au fur et à mesure, et puis également les circuits courts.
Alors l'accès au numérique, en fait, la Covid est passée par là. Hein. On a vu quand il y avait des actions et des classes virtuelles, notamment qui étaient mises en place dans le cadre des collèges, tous les enfants n'avaient pas d'équipement. Donc heureusement, il y avait quelques tablettes qui étaient mises à disposition dans les collèges, mais c'est pas suffisant. Donc nous avons souhaité équiper réellement tous les collégiens de tablettes numériques, et donc on le ferait en 4 ans, c'est-à-dire dès l'année prochaine, on équiperait les 6e. Je le redis bien et j'insiste là-dessus, c'est sur la base du volontariat. Si un conseil d'administration ne souhaitait pas que dans ce collège soient mis en place les tablettes numériques, nous respecterons la décision qui sera prise par le conseil d'administration. Mais j'attire juste l'attention des conseils d'administration pour l'avoir vécu en direct au niveau de la région. Certains lycées, via leur conseil d'administration, avaient émis un refus pour la mise en place des tablettes numériques. Et puis quand la Covid est arrivée, en fait, tout le monde a été demandeur parce que tout le monde avait réellement besoin.
Vous parlez de la Covid, vous allez également développer, si possible, le nombre de capteurs CO2 dans les classes et en tout cas dans les endroits les plus fréquentés.
C'est ça, c'est prévu aussi, on est en train d'y travailler. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir mettre les capteurs CO2 dès qu'il va commencer à faire un petit peu froid partout. C'est pas partout, parce que dans les classes où il y a 5-6 élèves, la nécessité n'est pas la même. Il est évident que dans les classes où il y aura 27 élèves, il y aura des capteurs CO2. Donc on a commencé à chiffrer, c'est au bas mot pour commencer. C'est 100 000 euros.
À vos côtés, un collègue du département pour vous-même, mais également maire de Manosque et un ancien élève du Collège du Mont d'Or. C'est votre collège de cœur, Camille Galtier. Je suppose que vous êtes ravi de ce programme.
Je suis bien évidemment ravi des annonces de Madame la Présidente. Vous savez, quand on est arrivé au département et que l'on a gagné les élections, j'ai demandé à la Présidente de défendre un dossier prioritaire, c'était le Collège du Mont d'Or. Et je crois qu'elle a été plus qu'efficace, puisque 2 mois après, elle vient annoncer en trombe ce plan de rénovation pour le Collège du Mont d'Or. 12 millions d'euros, c'est un investissement massif. Je crois à la hauteur de la qualité de l'enseignement qui est fourni, à la hauteur des élèves du Mont d'Or. Et c'est aussi un plan plus global au niveau du département qui, je crois, ravira l'ensemble des collégiens, l'ensemble des parents d'élèves. Parce que très clairement, dans notre territoire rural, c'est important d'être fibré, important d'être connecté, et la qualité de l'enseignement n'en sera que meilleure. Donc je suis très satisfait, je remercie très cordialement et avec beaucoup d'amour notre nouvelle présidente.
Frédéric Gilardeau, vous êtes le directeur des services académiques. Est-ce que cette rénovation du collège vous satisfait ?
Ça va dans le sens d'un meilleur confort et de conditions de travail des élèves et des enseignants. Donc bien évidemment, pour un inspecteur de l'académie, c'est une grande satisfaction, d'autant que je sens dans la volonté de Madame la Présidente de prendre à bras le corps l'ensemble du dossier collège, de sorte que les équipes puissent travailler dans de bonnes conditions.
C'est aujourd'hui un jour de rentrée. Comment ça se passe dans le département ?
C'est une rentrée plutôt sereine, dans la mesure où tous les élèves avaient un professeur devant eux, que ce soit dans le premier et dans le second degré. Et c'est une rentrée qui a été très bien préparée, avec des moyens plutôt conséquents, puisque les équipes peuvent enseigner toutes les disciplines dans des bonnes conditions.
Le travail de vos services avec les communes pour les écoles, avec le département pour les collèges et avec le conseil régional pour les lycées fonctionne bien ?
C'est un travail de proximité. C'est un travail qui permet, nous l'avons vu, d'aborder toutes les questions relatives à l'éducation, mais aussi à la jeunesse, au sport et à la vie associative, parce que le ministère qui est le nôtre englobe toutes ces actions qui, je viens aussi de l'apprendre par Madame la présidente, est une ambition forte du département. Donc il y a vraiment là une symbiose que nous allons pouvoir mettre en œuvre.
La relance à l'heure du thé pour Terre d'Oc à Villeneuve.
Une visite préfectorale s'est achevée en fin d'après-midi autour d'un buffet parfumé et goûteux au siège de l'entreprise Basalpine. Dans le cadre du plan de relance et lauréate au titre de territoire d'industrie, Perdoc a obtenu 200 000 euros de l'État sur un projet de développement à 695 000 euros, un soutien conséquent et une reconnaissance nationale du savoir-faire de l'entreprise. Accompagné par le député Christophe Castaner, le président de la DLVA, Jean-Christophe Pétrini, le maire de Villeneuve, Serge Faudrin et plusieurs personnalités de l'agriculture et du monde de l'entreprise, la préfète Violaine Desmarais et la sous-préfète de Fort-Calquier, Nathalie William, ont pu visiter l'entreprise sous la conduite de son président, Vincent Cavaillès, et la directrice générale, Laure Vincent. Ces derniers ne les ont pas guidés vers les présentoirs et rayons du magasin, mais au cœur des services opérationnels de Terdoc, lieu fermé au public. Ainsi, les équipes de gestion, administration, création, design et communication, comme les ateliers de production, de conditionnement et d'expédition, ont été présentés aux visiteurs du jour. Une plongée dans une société qui prône depuis sa création en 1995 à Fort-Calquier des valeurs d'humanité, avec un H bien sûr, responsabilité sociétale des entreprises, produits bio, commerce équitable et développement durable sont les marqueurs de Terdoc depuis sa naissance et encore aujourd'hui, ou après la grande période nature et découverte dont elle se détache progressivement en diversifiant les circuits et désormais dans le groupe Fnac Darty, est devenue entreprise à mission, elle poursuit un développement maîtrisé et solidaire. Un chiffre d'affaires hors période Covid de 10 millions d'euros, dont 43% pour les seuls thé, les produits senteurs et cosmétiques, biocides et huiles essentielles complétant l'offre parfumée et très colorée de Terdoc. Avec 95% des ventes en France et le reste en Europe et Asie, que la direction entend accroître via le web, l'export et les boutiques indépendantes, la confiance règne chez la cinquantaine de salariés, dont certains sont présents depuis 25 ans. Il y a même des prévisions d'embauche et comme d'autres entreprises, Terdoc peine à recruter. Je vous propose d'écouter le président de Terdoc, Vincent Cavaillès, puis le député Christophe Castaner, mais d'abord la préfète Desmarais, qui revient sur l'apport du plan de relance à l'entreprise.
Violaine Desmarais, vous êtes préfète des Alpes de Haute-Provence. Votre sentiment après cette visite de l'usine de Terdoc ?
D'abord, c'est une satisfaction de pouvoir être présente aujourd'hui avec Christophe Castaner, avec les élus, avec la sous-préfète de Fort-Calquier pour faire cette visite qu'on a programmée il y a quelques mois dans le cadre de France Relance. Et pourquoi ? Parce que cette entreprise a candidaté à un des appels à projets au titre de France Relance pour qu'on la soutienne dans ses projets de développement. Et l'État a dit oui, en accordant une aide de 200 000 euros à cette entreprise. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la satisfaction de voir ce que l'entreprise arrive à entretenir comme dynamique grâce à cette aide. Ensuite, le deuxième élément, on rencontre les salariés, les 54 salariés, dont avec cette aide, on préserve les emplois et on sait qu'on va pouvoir permettre 13 embauches supplémentaires. Et le plan de relance, c'est ça, c'est des emplois très concrets, qu'on sauve et concrets.
Avec une insistance ici même sur la RSE, mais également sur le fait que ce soit une entreprise non pas féministe, mais féminine.
Oui, j'étais d'ailleurs très intéressée par voir la façon dont la présentation a été faite. Je reconnais que c'était très intéressant justement de voir l'histoire à laquelle tout ça renvoie. Il y a beaucoup de femmes dans cette entreprise, il y a des hommes. Globalement, je ressens, je crois c'est partagé, une cohésion très forte de l'entreprise. Et donc on voit que les maîtres mots qu'affiche cette entreprise ne sont pas que des mots, mais sont des choses très concrètes du quotidien. Et de la même façon, et c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai conclu mon propos, on parle beaucoup de RSE, on a eu récemment des remises de trophées de RSE dans le département, dans le cadre des trophées de la CCI aussi. Cette entreprise a été labellisée, s'est vue remettre un trophée qui est juste à côté de nous. Ça se passait il y a quelques semaines maintenant et c'est quelque chose de très concret, très d'ancien dans cette entreprise. Et ça va du packaging aux personnes auprès desquelles les thés sont récupérés dans le monde entier et ça va aussi dans ce souci du bien-être et des gens qui sont à la source des matériaux, des matières premières et ceux qui ici conçoivent les produits.
Ces 200 000 euros, c'est un encouragement de l'État vers Terdoc.
C'est un très fort soutien. C'est pour lui permettre de poursuivre son chemin en accélérant ses investissements. Il pourrait y avoir d'autres étapes de soutien supplémentaires. Mais on a pu voir aujourd'hui avec l'entreprise tout ce que ça a créé de positif, cette aide de l'État. Donc ces 200 000 euros, c'est un gros soutien, je crois, pour l'entreprise. Sans doute pas le dernier, mais c'est un moment important qui permet d'accompagner la relance et Terdoc.
Vincent Cavaillès, vous représentez l'entreprise Terdoc. Que de chemin parcouru depuis 1995 avec Patrick Lyons et Valérie Roubourg ?
C'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 25 ans dans le 04, à l'époque à Fort-Calquier, avec deux anciens de l'Occitane, comme beaucoup de sociétés dans la région. et une volonté de développer une entreprise tout en respectant à la fois l'environnement, ses salariés, et très impliqué dès le départ dans tout ce qui est RSE, qui aujourd'hui est un petit peu à la mode. Donc on est très fiers de continuer cette aventure après leur départ depuis cette année.
C'est un bel emblème, en fait, Terre-d'Oc, pour le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Oui, on en est fiers parce que on a toujours été des précurseurs, que ce soit pour le bio à l'époque. Je crois qu'on a été une des premières entreprises certifiées bio sur la cosmétique. Et aujourd'hui, on est la première entreprise du 04 à devenir entreprise à mission. Une des premières dans la région PACA et on est très fiers de ça.
Alors, entreprise à mission, ça veut dire quoi ?
Donc, ça veut dire inscrire dans les statuts de la société à la fois sa raison d'être et des engagements qui sont très forts. Nous, nos engagements tournent autour de la protection de l'environnement, de l'éco-conception des produits, de la mise en avant du travail des femmes en France et dans le monde, dans la mise en avant des petits producteurs locaux, mais aussi des groupements de producteurs dans le monde entier. Et aussi sur le bien-être des salariés qui travaillent chez Terre-d'Oc.
Alors depuis 25 ans, déjà 54 salariés chez vous-même, des besoins en recrutement. Et puis, vous faites partie aussi de l'enveloppe et du groupe Fnac Darty. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre société ?
Bien sûr que ça a changé des choses parce que avant on était une entreprise complètement indépendante. Aujourd'hui, il faut rendre des comptes, mais on a quand même beaucoup de chance parce que le groupe nous laisse la liberté et l'autonomie d'agir au quotidien. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est plus une chance parce que ça nous aide pour financer notre développement. Et puis, ils sont là en appui parce que pour des PME de notre taille, c'est toujours compliqué, les questions juridiques, les questions de recherche d'emploi, etc. Donc, il faut voir aussi l'appartenance à un groupe comme Fnac Darty, une opportunité, c'est ce qu'on fait.
Avec également depuis quelques années une appartenance très étroite avec Nature et Découverte qui a tendance à se distendre un petit peu et à votre avantage.
Les deux sociétés sont nées en même temps. Elles se sont développées quasiment en parallèle. Terre-d'Oc était et est toujours un petit peu le laboratoire d'idées de Nature et Découverte. On a toujours fait en sorte de créer des produits et de fourmiller d'idées de manière à avoir un renouvellement permanent des gammes de produits chez Nature et Découverte. Et c'est ça qui a fait la force des deux sociétés.
À vos côtés, Christophe Castaner, ancien maire de Fort-Calquier, c'est comme ça qu'on va commencer. Vous avez assisté à la naissance de Terre-d'Oc. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce bel adolescent, ou plutôt de ce bel homme ou belle femme, comme vous voulez?
Je crois qu'on peut souligner une qualité féminine à l'entreprise, parce qu'elle est très féminine dans son parcours, dans ses références, dans ses choix, dans ses partenariats, y compris à l'international, avec des filières de commerce équitable qui mettent en avant justement la production des femmes au plus près des terrains dans les pays d'origine. Oui, j'étais pas encore maire de Fort-Calquier quand l'entreprise s'est créée, mais je connaissais ces deux créateurs. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a 25 ans, ils avaient un projet, une ambition, une éthique et des valeurs. Et aujourd'hui, on voit comment ce projet, cette ambition sont montés en puissance et comment l'éthique et les valeurs restent les mêmes. Et du coup, c'est intéressant de voir, vous interrogez le président sur le fait qu'il avait choisi pour son entreprise le statut d'entreprise à mission, qui est un dispositif qu'on a voté il y a peu de temps dans la loi Pacte. Seules 124 entreprises au niveau national ont opté pour ce statut, qui se fixe des objectifs éthiques, des objectifs de développement durable. Et on voit comment ici, c'est mis en lumière, c'est mis en pratique, et c'est un élément de satisfaction, évidemment.
Et outre la qualité des produits, c'est aussi la qualité du design et du marketing et du packaging de ces produits qui sont flashy, juste ce qu'il faut, et qui font la marque de Terre-d'Oc également.
Oui, parce que pendant longtemps, l'entreprise Terre-d'Oc avait une vitrine. C'était les magasins Nature et Découverte qui ont fait ce choix de marketing particulier que vous évoquez. Mais c'est cette capacité de s'adapter au marché et d'inventer de nouvelles gammes. Jusqu'à, je crois, 200 par an, produits peuvent sortir d'ici, peuvent être créés. Et donc, le marketing doit effectivement changer. Mais ça, c'est le savoir-faire de l'entreprise, de nos entreprises aussi, de s'adapter au marché. On peut faire des petites séries, mais on peut les faire belles, on peut les faire bonnes et on peut les faire saines.
Olivier Romeau, les glaces sont vivantes sous la menace.
Il a fait son chemin de la philosophie au voyage et jusqu'aux icebergs. Olivier Remaud est philosophe et directeur à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de « Penser comme un iceberg » paru chez Actes Sud en octobre 2020 en partenariat avec l'association Opéra Mundi. Il a animé une conférence intitulée « Les glaces vivantes » lors du Congrès mondial de la nature de Marseille. Olivier Remaud parle de son travail et des enjeux du congrès au micro de Mathieu Marc.
Dans cet intitulé « Les glaces vivantes », il y a presque une contradiction entre ces deux termes, un oxymore que j'imagine volontaire, entre d'un côté la glace, que l'on perçoit dans le sens commun comme une matière inerte, morte, non vivante en tout cas, et de l'autre, le terme de vivant.
C'est exactement ça. J'ai fait exprès d'annoncer le paradoxe pour le travailler. C'est l'un des fils rouges du livre que vous avez mentionné. On a l'impression que ces mondes de glace au pôle nord, pôle sud, mais aussi en fait dans les cercles polaires, et puis pensons aux montagnes, hein, les massifs montagneux, y compris celles qui nous sont très proches, sont dénués de vie, que la glace, en fait, ça correspond à des étendues complètement inertes, qui ne connaissent par exemple aucune biodiversité, qui sont régies par l'obscurité très souvent, et puis avec lesquelles on entretient peu de relations. Et donc mon intuition, puis c'est devenu vraiment ce qui a été vérifié par toutes les expériences, les rencontres que j'ai faites en préparant ce livre, c'est que il faut penser exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des mondes où en fait il y a plein de vie avec lesquels plein de gens qui habitent dans ces régions-là entretiennent des relations très intimes, et tout ça m'a beaucoup intéressé.
Comment vous en êtes arrivé dans votre parcours de philosophe à vous intéresser aux glaces et aux icebergs?
C'est une longue histoire. Au tout début, c'est adolescent, j'ai rêvé de glace, un peu comme certains aventuriers polaires. C'est des rêves d'enfant. Et puis après, j'ai lu beaucoup de littérature de voyage. Et j'avoue ma fascination pour les récits de voyage, notamment dans ces contrées, le Grand Nord, la Russie, l'Antarctique. Et puis, au fur et à mesure que je lisais ça, je me rendais compte aussi qu'il y avait quelque chose qui manquait, et puis je pense qu'il manquait aussi à ces personnes qui s'aventuraient vers ces grands ailleurs. C'est peut-être une clé de compréhension, parce que pour eux, justement, ces mondes étaient vraiment très très hostiles, et ils entretenaient peu de rapports, pas tous, mais pour la plupart, avec les populations autochtones. Puis au fil des années, j'ai travaillé avec des gens qui, eux, avaient des rapports avec les populations autochtones. J'ai lu beaucoup d'anthropologie, j'ai voyagé, et je me suis rendu compte que dans tous ces endroits, justement, on revient à ce qu'on disait, il y avait beaucoup de vie, humaine et non humaine, et que peut-être que, justement, ces aventuriers polaires n'avaient pas la volonté ou le langage leur manquait peut-être, les mots, hein, régime de sensations leur manquait peut-être, ils étaient peut-être beaucoup dans la performance, dans la conquête de territoires aussi, avec des enjeux politiques, financiers. Bon, et je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les questions liées au réchauffement climatique, il faut évidemment ce regard et comprendre que ces régions sont des régions clés pour l'économie générale de la planète, et que les populations autochtones, la biodiversité qui s'y développe, sont des interlocuteurs eux-mêmes majeurs.
Et comment vous avez travaillé justement à base de littérature? Vous évoquiez aussi des voyages. C'est à la fois un travail sur le papier, derrière les livres, et aussi sur le terrain.
C'est ça, tout à fait. Et c'est ce dont témoigne un peu le livre. Alors avec des degrés divers, bien sûr. Hein, je ne suis pas un aventurier polaire pour autant. Hein, je n'ai pas écumé les quatre coins extrêmes de la planète. Mais disons qu'en à un moment, en collectant certaines expériences de voyage, certaines réflexions, certaines lectures, beaucoup de rencontres avec des gens de disciplines très différentes, de la glaciologie à l'anthropologie, avec justement aussi des explorateurs, exploratrices. Eh bien, je me suis dit, il faut que j'en tire quelque chose. Et ça a donné ce livre où je raconte, en fait, à la fois des idées et à la fois des expériences de terrain.
Et le fait que la glace aujourd'hui soit une espèce menacée, entre guillemets, j'imagine que ça vous motive aussi pour venir participer à ce congrès mondial de la nature.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut. Les glaces ont toute leur place dans ces réflexions et puis ces initiatives. Il est évident qu'il faut leur redonner leur sens, et je crois que leur sens
est vraiment multiple, à la fois support de vie, hein, ce sont des arches biologiques, des vraies plateformes de biodiversité, et à la fois sur, même pour nous humains, si on ne pensait qu'à nous humains, et bien sûr il ne faut pas le faire, mais ce sont finalement des éléments, je dirais même presque des entités, hein, tous ces morceaux de glace qui nous sont extrêmement utiles, même plus, puisque un seul exemple, les algues de banquise produisent une grande partie de l'oxygène mondial. Donc plus la banquise se rétracte et moins il y a d'algues, c'est-à-dire que tout simplement moins tous les êtres vivants respirent bien. Donc nous en dépendons très très intimement au même titre que n'importe quel autre être vivant.
Mon loto pour mon lot.
C'est une phrase que pourrait prononcer Stéphane Bern au sujet de la réhabilitation du vieux Mont-Lot, l'un des 100 dossiers que la mission du patrimoine, menée par l'emblématique animateur, a sélectionné, concerne un petit village de Haute-Provence. Il bénéficie des tirages du loto du patrimoine jusqu'au 18 septembre. Porté avec énergie et constance par la maire de la commune Camille Feller et son conseil municipal, il s'agit de ne pas oublier l'ancien site du village, abandonné fin du XIXe siècle et qui tombait en ruine. Déjà, le dossier a obtenu des soutiens de la région et de l'Europe, ainsi que 2 souscriptions de la Fondation du patrimoine, et une 3e est en préparation. Des travaux de consolidation en urgence ont été réalisés pour arrêter les dégradations, et si l'antique donjon n'est plus, des vestiges se dressent encore dans le ciel sur un piton qu'avaient choisi les anciens pour avoir la vue sur le Dauphiné et la Provence en cas d'invasion. Récemment, dossier et plan en main, Camille Feller et des adjoints de Mont-Lot, accompagnés de Patrick Claude de l'association Au pied du mur, ont guidé le député Christophe Castaner et la déléguée de la Fondation du patrimoine Marie-Françoise Brunel sur les lieux du vieux Mont-Lot.
Camille Feller, c'est une opportunité pour vous, la mission Bern?
Ah ben, c'est une opportunité extraordinaire et unique, puisque comme on voyait les ruines qui s'effondraient à vue d'œil, c'était maintenant ou jamais, parce que dans quelques temps, il sera trop tard. Et étant donné les finances de la commune, c'est effectivement une opportunité très importante.
C'est un sujet que l'on suit depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qu'il y a exactement au vieux Mont-Lot?
Mais le vieux Mont-Lot, c'est un village abandonné. Il y a encore la structure de tout un village. On peut voir les rues, les places, bien sûr le cimetière, l'église, des bouts de remparts. C'est un village qui était médiéval, mais qui a été habité jusqu'au 19e siècle.
La suite des opérations?
Là, actuellement, on est en train de mener des travaux de sauvegarde sur la tour. Donc, pour nous, c'est des réunions de chantier toutes les semaines, des travaux bénévoles, des visites lors des journées des patrimoines, des travaux tous les mois. Et puis on va voir au mois de janvier combien la mission Bern va nous allouer et finaliser notre projet.
À vos côtés, Marie-Françoise Brunel, pour la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine qui suit avec grand intérêt ce dossier.
Bien sûr, puisque nous l'avons porté également, puisqu'on nous demande notre avis et on l'a donné. Et je pense qu'on a su montrer la détermination de Madame le maire et de son équipe municipale et des bénévoles, parce que ce chantier est intéressant, bien évidemment, mais aussi il y a une volonté et une détermination qui est remarquable.
On voit dans ce chantier, et en tout cas dans cet espace, qu'on creuse dans l'histoire des Basses-Alpes.
Bien sûr, c'est un pan d'histoire. Ce sont des gens qui ont habité là, qui ont vécu là, qui ont cultivé les terres, qui sont allés à la messe, puisqu'on parle beaucoup d'église et de Saint-Jacques. Donc c'est très très émouvant, c'est toute notre histoire qui ressort à ce moment-là.
Et chacun va pouvoir y participer grâce au loto du patrimoine.
Grâce au loto du patrimoine, bien évidemment, j'engage tout le monde à jouer au loto. Et puis j'engage aussi tous les donateurs, les nouveaux donateurs, de refaire un don par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine qui sera reversé. Parce que c'est vrai, Madame le maire disait que la commune est pauvre. Nos communes basalpines sont pauvres. Elles ont un patrimoine très riche. Elles veulent l'entretenir. Donc elles ont d'autant plus de mérite, il faut les aider.
À vos côtés, quelqu'un qui suit également ce dossier, Christophe Castaner, ancien ministre et député des Alpes de Haute-Provence. Vous étiez aussi président de la communauté de communes où Mont-Lot figure. C'est un dossier que vous suivez, effectivement, et vous devez être ravi.
Je suis heureux surtout de voir l'énergie, la passion de l'équipe municipale autour de Madame le maire de Mont-Lot, qui veut préserver ce qui fait l'identité de nos territoires et l'identité de cette commune. Je suis aussi très impressionné par le respect. le respect au fond de l'histoire de ces femmes, de ces hommes qui ont fêté ici, qui ont travaillé ici, qui ont prié ici, et qui sont morts ici. Et cette volonté aussi de ne pas négliger d'où nous venons, notre propre histoire avec sa part de difficultés. C'était plus difficile de vivre ici que dans le nouveau village, et n'empêche, on a su mettre cela en avant. Et donc oui, ce projet porté par la mairie avec une formidable énergie a pu retenir l'attention de la Fondation du patrimoine dans un premier temps, qui déjà accompagnait le projet, et puis du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Il se trouve que je connais un peu Stéphane Bern, que j'avais attiré son attention sur la cathédrale de Fort-Calquier il y a quelques temps, et que quand Camille avait le maire avait évoqué ce dossier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Mais c'est la qualité du projet, c'est l'énergie de celles et ceux qui le portent qui font qu'il a été retenu au niveau national.
Problème d'accessibilité, cependant, il faut monter quelques petites marches naturelles. Ça va permettre aussi de maîtriser la circulation autour de ce site, certainement.
Commencer par le protéger, parce que l'équipe municipale nous racontait tout à l'heure que jusqu'à il y a quelques années, pas si lointaines que cela, ce site était pillé, il était considéré comme non important, si ce n'est pour la qualité de ses pierres, et on venait, on récupérait les pierres, et puis ce site du coup a été abandonné, il était privé, et nous savons dans nos Alpes, dans nos terres rurales, que les propriétaires fonciers, les paysans ont toujours un peu de mal à vendre, même si ça ne permettait pas de produire, et là aussi il a fallu une belle énergie de l'équipe municipale pour avoir la maîtrise foncière. Donc aujourd'hui, le site est maîtrisé, mais il n'est pas pour autant protégé, parce qu'au fil du temps, il y a des fragilités, d'où l'importance du chantier, des chantiers qui ont été engagés et du chantier qui va venir.
Dernière question, Camille Feller, qu'est-ce que vous attendez comme enveloppe pour ce chantier ?
Moi, j'aurais besoin, enfin, nous aurions besoin pour pouvoir vraiment faire le projet tel que nous l'espérons et tel qui permettra vraiment de sauvegarder l'aspect villageois. C'est ça, moi, qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont vécu ici. Quand on voit derrière nous ce rempart, on se dit que c'était aussi un peu des esclaves pour certains. Et donc, moi, dans mes rêves, ça serait 80 000 euros.
Trois jours d'escapade au Théâtre Durance.
10e édition des escapades au Théâtre Durance de Château-Arnoux-Saint-Auban, avec des artistes d'ici et d'ailleurs, et toujours de belles découvertes musicales. Difficile d'attribuer un genre musical à ce rendez-vous où les influences se croisent. Trois soirées de spectacle, en tout 12 groupes sur scène, c'est un événement exceptionnel sur le territoire de Provence-Alpes-Agglomération et entièrement gratuit. Claude Fiaert, vice-présidente de Provence-Alpes Agglomération, déléguée à la culture, Ronan Le Pennec, administrateur, et la directrice du Théâtre Durance, Élodie Prel, répondent aux questions de Chris Alessandri.
Bon, une 10e édition qui s'annonce très éclectique, voilà, avec une offre artistique qui va toucher tous les milieux, tous les côtés de la musique. Et enfin, retrouver le public, retrouver les artistes, c'est important pour nous, dans ce contexte, pouvoir proposer à notre public, enfin, quelque chose.
Un festival auquel l'agglomération tient énormément.
Oui, le Théâtre Durance, c'est le bras armé de Provence-Alpes Agglomération. Ce festival qu'on a dû reporter de juin à septembre, c'était important pour nous de le maintenir malgré les contraintes sanitaires qui nous sont imposées.
Claude Fiaert, côté programmation, est-ce que vous mettez également votre petite touche ?
Non, je laisse faire Élodie, Ronan, ils sont beaucoup plus compétents que moi en ce domaine, mais ça ne m'empêche pas de leur faire part de mes goûts, mais bon, on y arrivera un jour, peut-être un peu de métal dans tout ça. C'était très important aussi que notre agglomération puisse proposer une offre artistique et un festival à l'orée de cette nouvelle rentrée, qu'on espère beaucoup plus douce que celle de l'année dernière, plus clémente, et on espère enfin sortir de ce contexte très compliqué pour chacun d'entre nous.
Ronan Le Pennec, vous êtes administrateur. Côté programmation, donc comment se fait la programmation ? De quelle façon vous programmez le festival et les groupes qui jouent sur scène ?
C'est un travail vraiment qu'on mène à quatre mains. C'est-à-dire que moi, je fais plutôt un travail de défrichage, à savoir quels groupes sont en tournée, quels groupes sont disponibles, quels groupes ont des actualités. Et ensuite, je soumets, on travaille ensemble avec Élodie, je lui soumets toutes ses propositions et on essaie de construire un programme ensemble qui soit cohérent, diversifié au niveau des esthétiques. Voilà à peu près comment ça marche.
Alors donc, l'harmonie règne ou il y a parfois un tout petit peu des tensions. De quelle façon ça se discute ? Parce que les goûts ne sont pas toujours les mêmes.
L'harmonie règne, c'est-à-dire que, par exemple, pour nous l'essentiel en tout cas, c'est les propositions qui sont faites au public. Donc par exemple, dans la programmation, moi je ne suis pas toujours friand de toutes les propositions, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses que j'écoute forcément chez moi, mais je me dis qu'elles ont aussi leur place aux escapades parce qu'on est là aussi pour présenter des esthétiques différentes.
Y a-t-il une identité qui puisse définir la programmation ?
Disons qu'on est vraiment sur la diversité des esthétiques. Je dirais que le mot qui définit la programmation, c'est diversité.
La place des femmes est omniprésente.
Tout à fait, on a essayé, là si vous regardez pour cette année, on a à peu près quasiment la moitié des projets qui sont tenus par des femmes. C'est pour ça qu'on l'a précisé aussi, on est assez content de cette spécificité dans un milieu quand même très masculin.
Avec peut-être un petit clin d'œil, une référence aussi au rock des années 70.
Oui, tout à fait, après c'est aussi l'histoire de l'actualité musicale. Aujourd'hui, c'est notamment un groupe qu'on a programmé il y a 2 ans qui s'appelle Altingun, qui a un peu remis au goût du jour toute cette esthétique années 70 et psychédélique. Ce groupe a connu un succès certain et du coup, il y a aussi plein de groupes aujourd'hui qui s'en inspirent et qui viennent puiser dans ces musiques passées.
Élodie Prel, des escapades avec une saveur, disons, toute particulière et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé.
Oui, parce qu'on les attend depuis très très longtemps. Cette 10e édition, elle était prévue pour se tenir en juin 2020. Et finalement, elle se tiendra en septembre 2021, donc ça fait plus d'un an qu'on a programmé, repoussé. Et même jusqu'à ce qu'on parte en vacances cet été, on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir maintenir cette édition de septembre 2021. Donc on est assez content qu'elle puisse avoir lieu, enfin, même si évidemment il y a des restrictions sanitaires qui s'imposent. Mais on l'a attendu, on l'a chéri, on l'a concocté avec Ronan. Donc on a fait cette programmation à quatre mains et c'est vrai qu'on a hâte maintenant de qu'elle se déroule. Roule, enfin.
Les escapades, c'est tout un contexte, c'est toute une réflexion, parce que l'environnement est également omniprésent dans ce que vous projetez au niveau des spectacles et de l'accueil.
Aujourd'hui, on est une entreprise, le Théâtre du Rang, c'est une entreprise, on s'appelle comme ça, une organisation qui est inscrite sur un territoire et qui est inscrite dans une société, qui est inscrite dans le monde. Et donc la question de l'éco-responsabilité d'un lieu comme le Théâtre du Rang se pose au quotidien, dans nos activités de bureau, dans nos activités d'accueil de spectacles en salle, et bien évidemment dans notre activité de programmation et du festival. Alors c'est par exemple le choix de partir sur un éclairage en LED, 100% LED sur l'espace scénique, parce que c'est aussi des espaces très énergivores. C'est le choix de la restauration qui est en produits courts, voire même bio, avec des contenants triables, au mieux compostables. C'est du tri des déchets, c'est de pouvoir aussi travailler avec des associations qui vont recycler les déchets carnés. C'est au niveau du bar de ne plus être sur des boissons manufacturées par des grands groupes industriels, mais au contraire, de laisser la place à des producteurs locaux, et on en a plein. Donc ça, c'est important pour nous, de passer aussi aux toilettes sèches, de mettre en place un bar à eau. Voilà, tous ces petits gestes qui doivent être maintenant presque un réflexe, quoi.
Côté mesures sanitaires également, vous êtes bien présent avec la possibilité de faire le test sur place pour les personnes qui ne pourraient pas présenter leur certificat.
La loi s'impose à nous, donc on est contraint de mettre en place ce contrôle de passe sanitaire. Et on se dit que pour des personnes qui auraient pas eu le temps, auraient pas pensé, on a la possibilité de faire un test antigénique puisqu'il y a des infirmières qui seront présentes sous place tous les 3 soirs du festival. La seule chose, c'est que les gens ne doivent surtout pas oublier leur carte vitale.
Pour juste un tout petit peu monter sur scène, alors c'est 3 soirées, 12 groupes qui seront là, c'est gratuit. Comment ça va se dérouler? Un petit survol des groupes qui émergent dans ce que vous présentez.
Il y en a quelques-uns. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'être émergent? Moi, je dirais que tous ces groupes, ils ont déjà une petite histoire. Ils sont pas forcément connus du grand public, comme je disais, mais qui sont déjà repérés par le circuit professionnel. Alors, on a quand même notre vétéran qui est Batlik, qui en est à son 12e album. Mais sinon, on a des groupes comme You Said Strange, Dodeline, Célon aussi. Voilà, on a des projets après un peu atypiques qui sont des projets qui se font sur mesure. Je pense à l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. On a vraiment de tout. Mais par contre, ce qui est important dans cette programmation, c'est évidemment de faire connaître des artistes qui démarrent. C'est important pour nous de soutenir aussi les jeunes talents qui émergent. Mais c'est important surtout de pouvoir offrir une très grande diversité dans la musique. Vraiment inviter les gens à faire un parcours à travers 2, 3, 4 groupes programmés un même soir. Tous, par contre, quelle que soit leur durée de vie, jeunes ou vétérans, sont d'excellents musiciens.
Un petit rappel simplement des dates.
16, 17 et 18 septembre sur le parking des Lozières, donc à côté du Théâtre du Rang. Le site ouvre à 18h. Les concerts démarrent entre 19 et 20h. Il y a à boire, à manger et les concerts sont gratuits. On vous attend avec impatience.
Valensol Mettez Comté recrute acteurs amateurs.
C'est une pièce humoristique qui sera jouée en 2022 pour les 40 ans de la VAC, l'association valensolaise d'animation culturelle. Si Valensol Mettez Comté a été coécrite par Jean-Jacques Corr et Jacques Beck, qui se sont eux-mêmes aidés des archives recueillies par John Windsor, principal historien de la commune de Valensole. Les deux auteurs sont à la recherche d'hommes pour commencer les répétitions à partir, si possible, du 18 septembre 2021, les samedis matins de 9h à 11h. La troupe de comédiens amateurs sera encadrée par la compagnie Lumière d'Étoiles. Jean-Jacques Corr répond aux questions d'Odile Frison.
Jean-Jacques Corr, vous êtes président de l'association valensolaise LAVAC. Vous préparez donc les 40 ans de cette association, mais aussi vous lancez un appel pour une pièce que vous avez coécrite avec Jacques Beck, « Si Valensole m'était compté », une pièce donc qui a besoin évidemment d'acteurs. Quel est le sens de cette pièce ?
On est encore en train de la relire et nous avons demandé à Marjorie Caillot, qui anime une petite troupe sur Oraison qui s'appelle Lumière d'Étoiles et qui anime des ateliers de théâtre, de contes, etc. Et l'année dernière, elle avait présenté Le Cigalon de Pagnol avec sa troupe et cette année, elle est venue pour un autre spectacle appelé En avant la musique. Et on a aimé ce qu'elle faisait, donc on a pensé que ce serait peut-être bien de lui proposer de faire la mise en scène. Voilà.
Ce livre, Si Valensole m'était compté, c'est réalisé d'après les archives de Monsieur John Windsor.
Exactement. Voilà, les archives qui ont été compilées. Et ensuite, la forme humoristique, c'est moi qui l'ai introduite. Monsieur Windsor, lui, c'est un historien, j'allais dire pur et dur, non, mais c'est un historien, même si effectivement, il y a plein d'anecdotes cocasses à travers l'histoire de Valensole. Hein. Disons que la note humoristique, j'y ai pensé parce que vous connaissez peut-être un peu aussi l'histoire de Valensole. Vous savez que en 1965, il y a eu un événement. J'ai imaginé, ça a pris un petit peu de temps parce qu'effectivement, j'étais parti dans l'idée de faire quelque chose de plus historique et de plus pédagogique, si vous voulez. Et puis, petit à petit, je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu sérieux, un peu sec. Et donc, j'ai introduit les extraterrestres qui apparaissent comme ça au début de chaque scène. Et donc, il y a un dialogue, soit entre eux, entre les deux extraterrestres, soit avec une personne un petit peu emblématique de l'histoire de Valensole et qui introduit une scène, par exemple, sur la peste à Valensole, quelque chose aussi sur la révolution à Valensole. Ensuite, on a quelque chose sur l'amiral de Villeneuve qui avait commandé la flotte française à Trafalgar. Bref, sur l'école à Valensole, sur les fêtes à Valensole aussi, puisque Valensole était connu partout dans la région comme étant un gros village où il y avait des fêtes nombreuses. Ça a laissé une empreinte quand même à Valensole. C'est des fêtes principalement religieuses au départ, mais qui étaient très intéressantes. Donc, avec l'apport des extraterrestres, ça allège un petit peu le propos et bon, dans le but un petit peu quand même de ne pas trop lasser le public, on a pensé à ça.
Et alors maintenant, il vous manque les acteurs.
Oui, alors les acteurs, si on faisait jouer chaque rôle par une personne différente, il nous faudrait au moins 30 personnes, c'est sûr. Il nous faudrait quand même au moins 15 personnes qui pourront peut-être jouer l'ensemble des rôles. Et il nous faudrait surtout des hommes. On a déjà une dizaine de personnes, mais on doit avoir 2 ou 3 hommes pour 7 femmes. Donc, il nous reste effectivement à trouver peut-être entre 5 et 10 hommes, ce serait bien. Il y a une scène où il y a une espèce de tribunal, vous savez, public, là, avec des juges, etc., devant lesquels passent des citoyens qui se sont mal comportés aux yeux, bien sûr, des gens qui dirigeaient la ville à cette époque-là. Donc, c'est surtout effectivement des hommes. Puis, peut-être des enfants aussi, mais bon, on espère que, en particulier la scène avec l'amiral de Villeneuve, on espère que on pourra avoir le concours d'un des instituteurs de l'école avec sa classe, parce que la scène sur l'amiral de Villeneuve, je l'illustre par une espèce de cours d'histoire sur la bataille de Trafalgar et le rôle de l'amiral de Villeneuve pendant celle-ci, quoi.
Donc plutôt des hommes, plutôt oui. des hommes âgés.
Oui, un peu des deux. Peu importe.
Et alors, peu importe s'ils ne sont pas du tout dans le milieu du théâtre.
Non, justement, on a prévu de travailler là-dessus pendant jusqu'en mai prochain, à raison de 2 heures par semaine le samedi matin, de 9h à 11h, dans nos locaux, avec donc notre metteuse en scène, comme je vous disais tout à l'heure, qui va donc les former, s'ils n'ont aucune formation, et puis bien, on verra comment ça se passe. On va pas demander une qualité professionnelle pour cela. Je pense que le propos ne le nécessite pas, mais bon, on aimerait bien qu'il y ait des gens de Valensole qui s'investissent, pas seulement de Valensole d'ailleurs, mais bon, on aimerait bien qu'il y ait des gens de Valensole qui s'investissent là-dedans, parce que je crois que ça peut être une aventure intéressante.
Pour que ces personnes puissent vous contacter pour s'inscrire éventuellement, ou pour recruter les futurs acteurs, il faut donner un téléphone.
Oui, bah, 06 71 20 58 01. Autrement, nous avons une messagerie, c'est avac04, avac04, @gmail.com.
Donc, il faut faire vite finalement, puisque...
J'aurais bien aimé qu'on commence le 18 septembre, mais on commencera probablement peut-être le 18, mais bon, peu importe s'il y a peu de monde, on peut déjà commencer à travailler, mais il faudrait qu'à la fin du mois de septembre, on ait notre troupe. Donc je répète, c'est le samedi matin de 9h à 11h dans les locaux de l'AVAC qui sont au-dessus de la médiathèque et à côté de la caserne des pompiers dans la descente de Manosque, là, quand on vient de Manosque, quand on descend vers le centre du village.
C'est la fin de ce magazine. Merci François, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Mathieu pour la régie. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la visite d'Emmanuel Macron, notamment sur les terres de Jim à Corbières.